Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, la Voix de l'Amérique en direct de Washington depuis le Studio 13, au micro Anne Albertson. Programmation spéciale ce matin en raison du Labor Day, la fête du travail ici aux États-Unis. Nous vous proposons un programme spécial sur l'épidémie d'Ebola qui continue sa progression en Afrique de l'Ouest après l'apparition du virus il y a plusieurs mois déjà en Guinée.
L'Ebola, c'est une mauvaise maladie quoi. Tout le monde a peur d'Ebola. Ici, on ne se salue même pas, main à main.
Reportage à suivre de Zakaria Camara à Conakry. Tout d'abord, le journal. Reprise ce lundi à Alger des négociations entre le gouvernement malien et les groupes rebelles. Cette deuxième phase va notamment porter sur le statut du Nord-Mali, appelé aussi Azawad par les groupes armés. Outre l'Algérie, l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO vont participer à ces négociations. Coup dur pour l'armée congolaise, le général Lucien Bahouma est mort hier en Afrique du Sud. Selon Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, le commandant de la 8e région militaire est décédé à la suite d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il assistait à une réunion mixte d'état-major en Ouganda consacrée à la lutte contre les ADF. Le Nigeria a confirmé dimanche un nouveau cas d'Ebola. Il s'agit de l'épouse d'un docteur tué par le virus. Rappelons que vendredi, le Sénégal est devenu le 5e pays d'Afrique de l'Ouest à signaler la présence de l'Ebola sur son territoire. L'épidémie a déjà fait plus de 1500 morts. Un cas suspect a déjà été signalé en Suède. Le secrétaire général des Nations Unies exprime sa préoccupation concernant des informations faisant état d'un coup d'état militaire au Lesotho. Ban Ki-moon appelle toutes les parties à résoudre leurs différends de manière pacifique. Le premier ministre Thomas Tabane s'est réfugié en Afrique du Sud et doit rencontrer le président sud-africain Jacob Zuma, de même que le vice-premier ministre du Lesotho, qu'il accuse d'avoir orchestré les troubles au pays. Au moins 11 morts hier à Mogadiscio dans des affrontements entre les forces de sécurité somaliennes et des militants d'Al-Shabaab ayant attaqué une prison contrôlée par les services de renseignement. Selon des témoins, les assaillants ont fait exploser un véhicule piégé à l'entrée du complexe, mais ils ont tous été abattus et aucun prisonnier ne s'est évadé. Un porte-parole du ministère somalien de l'Intérieur indique qu'un civil et 3 agents de sécurité figurent parmi les victimes. Des djihadistes contrôlent une annexe résidentielle de l'ambassade américaine à Tripoli, en Libye. Ambassade qui avait été évacuée en juillet dernier à la suite des affrontements entre groupes rivaux. La chaîne de télévision Al Arabiya a diffusé une vidéo montrant des combattants se baignant dans la piscine du complexe. L'ambassadeur des États-Unis en Libye, Deborah Jones, affirme pourtant que l'ambassade semble être sécurisée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le groupe de contact sur la crise en Ukraine se réunit ce lundi au Bélarus avec des représentants de Kiev et Moscou, et ce au lendemain des déclarations de Vladimir Poutine évoquant pour la première fois l'idée d'un statut étatique pour les régions rebelles de l'Est. Au même moment, la Commission européenne doit commencer à travailler sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Sur le terrain, 2 navires des gardes-côtes ukrainiens ont fait l'objet de tirs dimanche près du port stratégique ukrainien de Mariupol sur la mer d'Azov. Moins d'une semaine après avoir accepté un cessez-le-feu à Gaza, Israël a annoncé dimanche sa décision de s'approprier 400 hectares de terre en Cisjordanie en représailles au meurtre de 3 adolescents israéliens enlevés près de Bethléem en juin dernier. Israël a décidé de déclarer propriété de l'État israélien ces 400 hectares proches de la colonie de Gvaot dans les environs de Bethléem en réaction au meurtre des 3 jeunes Israéliens. Israël a désigné 3 Palestiniens de Hébron comme suspects dans ce meurtre qui a déclenché 50 jours de conflit avec le Hamas. L'armée pakistanaise appelle gouvernement et manifestants à régler pacifiquement leurs différends tout en avertissant qu'elle jouera son rôle pour assurer la sécurité de l'État après des violences ayant fait 3 morts à Islamabad. Les affrontements se sont poursuivis dimanche entre les forces de l'ordre et des milliers d'opposants pakistanais exigeant la démission du Premier ministre Nawaz Sharif. En sport, enfin, à noter en basket cette victoire historique des Lions de la Teranga. Le Sénégal a remporté hier la première victoire de son histoire en phase de groupe de la Coupe du Monde Messieurs en battant Porto Rico 82-75 à Séville lors de la 2e journée. Et voilà pour ce journal. Vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Place maintenant à notre émission spéciale consacrée à l'épidémie d'Ebola.
Idriss Fall pour une édition spéciale sur la fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé espère stopper la progression du virus d'ici à 3 mois, mais s'attend à plus de 20 000 cas vu l'évolution actuelle de l'épidémie. Au dernier bilan publié jeudi, l'OMS avait dénombré 3 069 cas d'Ebola, dont 1 552 décès, dans 4 pays, notamment en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Et ce vendredi, le Sénégal a annoncé son premier cas de malade de l'Ebola. Le docteur Eva Marie-Cole Seck, ministre sénégalaise de la Santé.
C'est une réalité. Nous avons d'ailleurs informé les populations et informé la presse. Et c'est le cas d'un jeune étudiant guinéen qui est à l'université à Conakry, qui est venu au Sénégal et qui a omis de dire, si je peux dire, dissimulé le fait qu'il avait été en contact avec des malades d'Ebola. Et donc, il a été pris en charge dans la structure. Mais nous avons eu très rapidement l'information à travers le centre de suivi en Guinée qui nous a dit qu'il avait perdu un contact depuis 3 semaines et qu'apparemment ce contact était au Sénégal. Après avoir fait le recoupement, on s'est rendu compte que c'était la personne que nous avions hospitalisée dans l'une de nos structures. Cette personne donc a été isolée. On a continué son traitement. D'ailleurs, cette personne va mieux. Le bilan a été fait à Pasteur et il est revenu positif. Voilà les faits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous menons une riposte par rapport au cas contact, parce qu'il faut rechercher toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact, les suivre et dès qu'elles sont malades ou qu'elles ont des signes, les hospitaliser et les prendre en charge.
Est-ce que ces personnes ont été identifiées, par exemple, dans le milieu étudiantin?
Non, lui, il est venu voir un oncle au Sénégal, à Dakar, en vacances, apparemment, c'est ce qu'il dit. Mais nous pensons qu'il a fui la Guinée pour revenir peut-être trouver des traitements au niveau du Sénégal.
Mais on croyait et que voilà. La frontière était fermée entre le Sénégal et la Guinée. Il est venu comment alors?
Non, la frontière est fermée, mais vous savez qu'il y a aussi des possibilités de venir au Sénégal par plein d'autres voies, le Mali, ailleurs. Et ensuite, les frontières aussi sont poreuses. Il faut qu'on sache qu'il y a même des villages qui sont au niveau de la frontière. Donc, ce n'est pas une prévention à 100%, ça, tout le monde le sait, mais ça diminue le flux, bien sûr.
Maintenant, quel conseil aux populations pour éviter d'attraper le virus?
Eh bien, toujours les mêmes conseils. Et dès qu'il y a un malade qui présente des signes de fièvre, quelques hémorragies, mais également des courbatures, donc un état de santé qui nécessite de l'emmener voir un médecin, que tout de suite ça soit fait. Éviter donc d'être en contact avec des malades, mais surtout avoir des mesures d'hygiène draconiennes, comme on le préconise depuis le mois de mars, puisque depuis mars, nous avons une riposte au niveau du Sénégal, qui est la prévention, avec beaucoup de formations, beaucoup d'informations, de campagnes de sensibilisation. Se laver les mains avec du savon, c'est la première mesure qu'il faut prendre et ça peut sauver beaucoup de vies, bien sûr.
Mais au Sénégal, on se serre beaucoup les mains hein, pour dire bonjour quand même.
Vous pouvez dire bonjour et vous vous lavez les mains après. On n'est pas au stade encore où on fait une interdiction de se donner la main, mais il faut être propre. Si ce sont deux mains propres, il n'y a pas de problème.
Eva Marie-Cole Seck, ministre sénégalaise de la Santé. C'est en Guinée voisine que la maladie s'est déclarée en début d'année dans la région de Guékédou. Quelques cas ont été signalés à Conakry, la capitale. Comment lutter contre un ennemi qui tue et qui, de surcroît, reste invisible à l'œil nu? Reportage à Conakry de notre correspondant Zakaria Camara.
On n'avait pas peur des chauves-souris qui étaient ici parce que l'Ebola n'était pas venu en Guinée à ce moment. Nous-mêmes, on mangeait ces chauves-souris ici.
Ce jeune habite Cléondi, un des quartiers du centre-ville de Conakry.
Nous aussi, on a peur des chauves-souris. Et le chef du stade mission nous a donné l'argent pour qu'on coupe l'arbre qui a mission pour nous prévenir de ces chauves-souris.
Mohamed Lamine et ses amis se sont organisés pour couper les branches des arbres autrefois fréquentés par les chauves-souris. Des mammifères volants, dont la viande et celle des animaux de proue sont interdites en Guinée depuis l'apparition du virus Ebola. Le pays a enregistré plus de 400 décès. Les médias en parlent tous les jours. Mais à la question « Que savez-vous d'Ebola ?», certaines réponses sont loin de rassurer.
Ah, l'Ebola, c'est un mauvais maladie, quoi. Tout le monde a peur d'Ebola. Ici, on ne se salue même pas, main à main.
Moi, j'ai entendu le nom d'Ebola, Ebola, mais je ne connais pas. Je n'ai jamais vu l'Ebola avec un de mes compatriotes. Tu vois, c'est ça, je n'ai pas cru à l'Ebola, quoi.
Je ne connais pas ça.
Les Guinéens savent-ils comment le virus se transmet? Comment faut-il l'éviter? J'ai rencontré quelques citoyens qui donnent leurs idées.
Ah, l'affaire d'Ebola nous a fait peur. Beaucoup. Donc, d'une part, la saleté peut envoyer. Il faut qu'on soit tout le temps propre.
D'utiliser les eaux de Javel et puis surtout les gens qui sont infectés d'Ebola, qu'ils soient isolés et non plus que ces gens-là soient parmi nous ici.
Si Ebola, ça commence quelqu'un, du sang aussi, ça va sortir pour quelqu'un aussi. Et ton ventre aussi, ça va te faire mal un peu là.
Les autorités guinéennes multiplient les efforts de lutte contre Ebola, mais elles reconnaissent qu'il y a encore des résistances aux équipes médicales, surtout dans le sud du pays, l'épicentre de la maladie. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le Libéria voisin est l'un des pays les plus touchés. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a décrété l'état d'urgence. Les écoles sont fermées. Plusieurs compagnies aériennes ont cessé de desservir Monrovia. West Point, quartier populaire de la capitale libérienne, est mise en quarantaine. Bagassi Kourah a pu joindre sur place notre envoyé spécial Anne Look.
Les gens, ils sont toujours un peu inquiets là-bas, à propos de la nourriture, à propos des médicaments, à propos du manque de soins de santé. Il y a toujours un centre de santé là-bas. J'ai parlé avec des infirmières là-bas. Avec les Ebola, même les gens, ils ont peur même de venir au centre de santé. Ce que j'ai ressenti dans les rues de West Point, c'est que les gens, ils sont inquiets. Et j'ai parlé avec quelques jeunes qui sont toujours frustrés avec le gouvernement, avec cette réponse. Ils le trouvent un peu trop dur, un peu trop difficile. Et aussi, moi, j'ai suivi quelques équipes de volontaires de la communauté qui étaient là en train de chercher des malades dans les quartiers. On passait dans les maisons à maisons pour demander à chaque personne, est-ce que vous avez des... On ne parle pas d'Ebola, mais est-ce que vous avez des gens qui ont de la fièvre? Est-ce que vous avez des gens qui ont la diarrhée? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a le palu ici? Là, ils ont pu identifier quelques personnes que, après, ce sont des services de santé qui vont essayer de faire le suivi de ces cas-là.
Le gouvernement veut donc lever cette mesure d'isolement?
Je viens de parler avec la porte-parole du gouvernement. Ils me disent que maintenant, ils sont en train de revoir la situation. Ils ont dit que le cordon sanitaire, c'était nécessaire pour... Lui, il a dit de choquer la population, de faire comprendre que c'est une situation très, très sérieuse. Et il faut le prendre sérieux. Maintenant, ils ont évalué la situation. Le ministre de la Santé, il était là, dans le quartier ce matin. Et eux, ils se disent satisfaits de la mobilisation qu'ils sont en train de voir dans le quartier. Et ils disent qu'ils sont en train de regarder maintenant. Est-ce qu'ils vont peut-être lever ce cordon sanitaire et avancer à d'autres choses? Je pense aussi que le gouvernement a compris.
Concrètement, quand on parle de cordon sanitaire, est-ce qu'il s'agit de barbelés, d'une sorte de barrière? Est-ce que ce sont des soldats qui forment ce cordon? Décrivez-nous un peu ce cordon-là et c'est sur combien de kilomètres?
Oui, en fait, c'était des polices qui étaient sur le terrain. Ce sont des barbelés qui font le périmètre du quartier. Mais en fait, il y a une petite zone, comme on dit, une zone de buffer où les familles, les parents des gens qui sont à l'intérieur, ils peuvent venir pour essayer de livrer de la nourriture, des autres affaires aux gens qui sont à l'intérieur. Alors, c'est pas comme s'ils sont coupés du monde totalement. Il y avait un système en place pour essayer de laisser les parents donner des choses aux gens qui sont à l'intérieur, etc. Mais ce sont des barbelés. L'armée était là pour soutenir les polices pendant quelques jours. Mais ce que moi j'ai vu, c'était seulement les polices sur le terrain.
On nous dit que West Point est un quartier extrêmement pauvre.
Oui, c'est un quartier pauvre. C'est un quartier où vous pouvez avoir une dizaine de personnes qui dorment dans la même chambre. Et vraiment, pour moi, visiter le quartier, j'ai beaucoup marché dans un quartier qui est très peuplé. Il y a beaucoup de monde qui vit là-bas. Et les maisons sont côte à côte. C'est les chambres côte à côte, à côte à côte. Et même quand j'ai parlé avec le gouvernement cet après-midi, ils m'ont dit même que c'était ça un peu la motivation pour le cordon sanitaire pour ce quartier.
Anne Look, envoyé spécial de La Voix de l'Amérique au Libéria. La Voix de l'Amérique, une édition spéciale sur la fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest avec Idriss Fall. Le Mali a une longue frontière commune avec la Guinée. Pour le moment, aucun cas signalé, mais peur de l'Ebola oblige à la gare routière assurant la liaison Bamako-Conakry. Le chauffeur de taxi ronge son frein. Un reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Pour aller à Kouré-Malé, il faut passer par l'autogare des taxis qui font le trajet Bamako-Conakry long de 900 km. Dans cette autogare, c'est la morosité totale. Les clients en partance de la Guinée, qui étaient de 500 par jour, se retrouvent à une vingtaine, d'où la colère des taximan.
Je suis chauffeur de feu de la Guinée Conakry. Nous aussi, on entend l'affaire d'Ebola. Mais on souhaite que le gouvernement va nous aider. Ça, là, ça va quitter notre pays. Ici, la Guinée, c'est le même pays. C'est ça qu'on veut. Depuis 12 heures, je suis arrêté. Il y a 3 personnes dans ma voiture d'abord. Il n'y a pas de clients. L'affaire d'Ebola. Tout le monde est hyper, quoi, l'affaire d'Ebola, là. Avant, il y avait des clients. Maintenant, là, il y a pas assez de clients.
Devant le poste de contrôle de Kouré-Malé, 5 agents de la police veillent au grain pour contrôler les taxis guinéens. En temps normal, ils contrôlaient leurs papiers et leurs bagages. Mais désormais, les passagers sont priés de se soumettre au contrôle sanitaire avec des lavages de mains.
Tout citoyen guinéen entrant sur le territoire malien, vraiment, ne peut accéder à ce territoire sauf si procède à des tests. Nous avons également placé des médicaments, des dispositifs pour sécuriser vraiment la personne humaine. Bon, ces dispositifs la concernent quoi? On regarde d'abord la température. Il y a des signes d'Ebola quand même. Hein. C'est la température, c'est la fièvre, c'est les vomissements, c'est les diarrhées également. C'est le saignement également. Une personne présentant tous ces signes est effectivement isolée. Et si le test est positif, on le met dans des maisons d'isolement.
En plus de ce poste de contrôle, les agents de santé maliens se relaient à Kouré-Malé. Ils font des contrôles très stricts car la frontière entre le Mali et la Guinée reste ouverte. Malgré cela, le voyage est ralenti. À Kouré-Malé, les rares voyageurs que nous avons rencontrés connaissent les conséquences du virus Ebola. Certains pensent que le Mali doit même fermer sa frontière avec la Guinée-Conakry.
Le virus Ebola a causé une vraie panique aux Maliens par peur de contracter cette maladie contagieuse.
C'est son mode de transmission qui me préoccupe beaucoup. Jusque-là, je n'arrive pas vraiment à comprendre le mode de transmission du virus Ebola.
C'est une maladie très très dangereuse qui se transmet par des animaux sauvages, notamment les singes. On dit également encore la chauve-souris. Ça se transmet également d'homme à homme.
C'est très dangereuse et très mortelle. Une épidémie de cette grandeur peut apporter des crises alimentaires.
Puis les autorités voient que l'épidémie gagne du terrain. Il faut fermer les frontières. Il faut fermer les frontières, que ce soit terrestre ou aérien. On ne veut pas d'Ebola dans notre pays ici.
Les autorités maliennes ne souhaitent pas fermer la frontière de Kouré-Malé. Elles misent sur le contrôle rigoureux à travers les postes installés. Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
Nous travaillons en tout cas au ministère de la Santé que nous ne fassions des clandestins, que des gens qui étaient disposés à se livrer à ce contrôle-là ne soient transformés en clandestins, parce que si on dit qu'on a fermé les frontières, peut-être on peut fermer officiellement, mais on n'a pas la preuve que celui qui veut passer d'un pays à l'autre qui ne le fera pas. Parce que si quelqu'un qui serait disposé à se soumettre à un contrôle sanitaire serait contraint maintenant de passer clandestinement, donc à échapper au contrôle sanitaire.
Entre le Mali et la Guinée-Conakry, il est difficile de contrôler le flux migratoire car les populations des deux pays ont en partage plusieurs valeurs sociétales et cela depuis des milliers d'années. Kassim Traoré, de retour de Kouré-Malé, la voix de l'Amérique.
En Côte d'Ivoire, les campagnes de sensibilisation se multiplient pour protéger le pays contre l'épidémie qui endeuille les familles chaque jour en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. La BAD envisage encore 150 millions de dollars pour équiper les systèmes de santé des pays affectés. Depuis Abidjan, le reportage de notre correspondant Germain Dri.
L'OMS a déclaré que l'apparition de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest est une urgence de santé publique qui nécessite une réponse internationale coordonnée pour éviter la propagation. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone continuent de signaler des cas et des décès liés au virus Ebola, quand la situation de la Côte d'Ivoire est pour l'instant hors du danger. Raymond Koffi Goudou, ministre de la Santé.
Pour le moment, nous n'avons aucun cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire. Nous nous préparons pour que, éventuellement, si un cas se déclarait, nous puissions, avec nos agents de santé qui ont été formés, pour une éventuelle riposte. Nous avons pris des dispositions pour que les populations à la base soient informées. Donc, nous avons installé des postes avancés avec nos agents de santé et nous avons demandé, bien sûr, au ministère de la Sécurité et au ministère de l'Intérieur, comme au ministère en charge de la Défense, de nous appuyer afin que nous puissions faire respecter ces mesures qui n'étaient que des mesures de prévention. Au départ.
Des mesures sont difficiles, mais pour éviter la maladie, on fait avec.
Frère Bernard, j'avoue que ces mesures du gouvernement font véritablement peur. Dans un contexte africain, c'est un peu difficile à respecter, étant donné que les accolades, les salutations sont des faits qui rentrent dans le quotidien de l'Africain. Je dirais même que c'est des actes, des réflexes même. Mais pour Ebola, on n'a pas le choix.
Pour barrer la route à cette épidémie qui ébranle la partie ouest du continent et le monde, Dr Louis Sambo, directeur régional général de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué des dispositions à observer.
Nous pensons que la disponibilité de professionnels de la santé est indispensable pour les soins à ceux qui sont déjà affectés. Il est aussi important de recruter des épidémiologistes, des sociologues qui puissent, au niveau des communautés, rassurer que les cas sont détectés, qu'ils sont traités et que le suivi des contacts aussi est fait de façon régulière.
Selon le président de la Banque africaine de développement, BAAD, la présence de cette maladie en Guinée, Libéria et Sierra Leone démontre l'impuissance du système de santé de ces pays. C'est pourquoi son organisation compte accroître les moyens pour leur équipement. Donald Kaberuka.
La crise d'Ebola a démontré la faiblesse structurelle de nos systèmes de santé. Il est évident que quand Ebola sera vaincu, et j'espère bientôt, il y aura d'autres épidémies, voire des pandémies qui exigent que nous soyons mieux préparés cette fois. C'est pourquoi, au-delà de 60 millions de dollars, les services de la BAAD sont déjà à l'œuvre pour mobiliser 150 millions de dollars supplémentaires pour ces deux actions à moyen terme et des problèmes structurels. Je puis vous assurer tout le monde que la BAAD sera un partenaire décidé et décisif dans cette lutte qui met en péril les acquis de notre continent.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, pour le moment, aucun cas n'a été signalé, mais les mesures de prévention, la vigilance et l'angoisse se vivent au quotidien. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
À la question simple, avez-vous peur du virus Ebola que nous avons posé à Madame Assetou Kafando? Voici sa réplique.
Je crois que tout le monde a peur et puis on a pris les mesures pour... On respecte ce que les autorités ont dit, comment se préserver, se lave les mains, on évite les gens suspects. Et puis bon, on espère qu'au niveau de la frontière, on ne laissera pas passer des gens suspects. La diarrhée de Ebola et puis une diarrhée normale, c'est pas parce qu'il y a Ebola qu'on a plus mal au ventre.
Face à cette peur, que faire? Tassere Savadogo dit Tastas à lui lancer un SOS en créant une coalition pour la prévention contre Ebola.
À partir du moment où le virus Ebola est un peu partout en Afrique de l'Ouest et qu'il n'y ait pas d'abord de médicaments, le primordial est basé sur la sensibilisation.
Les hôtels étant des lieux de rencontre de masse, nous avons fait un tour à Joli Hôtel de Ouagadougou. Innocent Caboret, le directeur des ressources humaines, explique ici les mesures prises pour la prévention.
Il y a des posters que nous avons affichés un peu partout pour attirer l'attention et des clients et du personnel de l'hôtel. Et il y a un certain nombre de dispositions qui sont décrites, notamment d'éviter de toucher toute personne suspecte. L'objectif, ce n'est pas l'hôtel seulement. C'est un objectif plus général, attirer l'attention de toute la population, tous ceux qui passent, qui rentrent à l'hôtel. Parfois, il y a des badauds, ils peuvent s'arrêter et puis regarder.
Le plan de prévention de Burkina Faso est évalué à environ 13 milliards de francs CFA, dont un gap de 12 milliards. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Et face à l'inquiétante progression du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, les Béninois prudents préfèrent observer les règles prodiguées par les pouvoirs publics qui multiplient les campagnes de sensibilisation. Le point avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
La présence du virus Ebola au Nigeria a créé une grave frayeur au Bénin, surtout avec la fausse alerte des deux cas suspects enregistrés mais qui se sont révélés négatifs à la suite des tests d'usage. De plus en plus, la psychose tombe et grâce à la campagne de sensibilisation déclenchée par le ministère de la Santé publique, la sérénité gagne les esprits et les Béninois abordent la question Ebola avec plus de calme et attirent l'attention sur les autres risques cachés.
Comme déjà le Niger est en train de mettre sa population en quarantaine et puis déjà il y a le sérum test en jeu qui essaie au moins de nous donner un peu l'espoir. Je vois qu'il n'y a plus d'inquiétude pour ça maintenant.
Moi je n'ai pas peur. Nous devons suivre les règles d'hygiène à partir de laver les mains à chaque fois que nous voulons manger ou bien nous voulons préparer, surtout nous les femmes, avec de l'eau et de savon. En plus de ça, on nous a dit surtout de ne plus prendre la viande de brousse.
Face au risque de pénétration du virus sur son territoire, le Bénin a pris certaines mesures dont nous parle ici le directeur national adjoint de la santé publique, Lucien Tocco.
C'est d'abord la surveillance. La surveillance des cas au niveau de nos frontières, ports et aéroports. Nous avons au niveau de ces postes-là, nous sommes en train d'enregistrer toutes ces personnes et on fait la surveillance, c'est-à-dire que nous avons tous leurs contacts et on les contacte régulièrement pour voir s'il ne commence pas à avoir des signes pour que nous puissions réagir aussitôt.
L'hôpital de référence, qui est le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou, s'est aussi organisé pour recevoir d'éventuels cas. La plus grande précaution reste et demeure les règles de prévention. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Au Cameroun, la peur gagne les populations. Les autorités ont fermé la frontière avec le grand voisin nigérian touché par l'épidémie. Et Yaoundé prend toutes les mesures préventives pour tenter de barrer la route au virus Ebola. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Jules Elobo.
Depuis la fausse alerte au virus Ebola à Douala il y a quelques jours, la psychose s'est emparée des populations malgré les assurances des pouvoirs publics. André Mamafouda, ministre de la Santé publique.
Je voudrais réaffirmer qu'au moment où nous parlons, il n'y a aucun cas suspect d'Ebola au Cameroun. C'est l'une des composantes du plan stratégique que nous avons élaboré, à savoir prendre des mesures pour qu'un cas Ebola n'entre pas dans le pays.
Face à la menace, les consommateurs de la viande, surtout celle de brousse, ont revu leurs habitudes.
Comme mesure de prévention, on ne mange plus la viande de brousse et on prend les mesures primaires de salubrité. Tu vas aux toilettes, tu te laves les mains.
Je préfère éviter de manger la viande de brousse, être en contact avec ceux qui sont trop malades.
Côté gouvernement, l'on est passé à la vitesse supérieure. La suspension des vols à destination ou en provenance de l'Afrique de l'Ouest et surtout la fermeture des frontières avec le Nigeria voisin. Mefiro Umaru, ministre délégué au transport.
Nous avons commencé par le transport aérien, le transport fluvial, le transport de cabotage entre la Guinée équatoriale, le Bénin et le Nigeria. Vous avez dans le sud-ouest, Manfé et Tiko, avec cette affluence-là où les gens vont et viennent. Ils nous ont rassurés que ce courant de trafic va être fermé. Et le ministre de la Santé a dit au moins pour 21 jours, la période d'incubation de ce virus-là, que nos frontières soient hermétiquement fermées.
Des mesures préventives qui intègrent également le déplacement des populations. André Mamafouda.
Les mesures, c'est déjà les relations que nous avons avec les pays en épidémie, où nous demandons à ces pays de filtrer absolument les déplacements des populations pour éviter la propagation. Et les mesures que nous avons prises au niveau de nos frontières, de nos aéroports, les ports, les passages frontaliers au niveau des voies terrestres, nous pensons que ces mesures devraient permettre à ce que les pays en épidémie achèvent leur plan de riposte et éviter donc la propagation du virus Ebola hors de leurs frontières.
Les autorités sanitaires annoncent la mise en place d'un comité national de réponse aux épidémies et urgences sanitaires. Yaoundé, Jules Lobo pour la Voix de l'Amérique.
Cependant, une petite lueur d'espoir, c'est que les autorités américaines ont annoncé le lancement des premiers essais sur les humains d'un vaccin pouvant prévenir cette fièvre hémorragique. Les précisions avec Timothée Donangmaï.
Ce vaccin expérimental est le fruit d'une collaboration entre l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis et la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline. Les essais cliniques seront, dans un premier temps, limités et viseront à étudier la sécurité d'utilisation du vaccin. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a eu un impact sur les recherches, a révélé le Dr Anthony Fauci, chef de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Nous avons accéléré le calendrier d'expérimentation des vaccins contre l'Ebola que nous étions en train de développer depuis des années. Après une revue rapide du produit et du schéma d'essai clinique par la Food and Drug Administration, nous avons obtenu le feu vert. Selon le Dr Fauci, les essais porteront sur 20 personnes âgées de 18 à 50 ans et se dérouleront au Centre de recherche de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses de Bethesda, près de Washington. Il s'agira notamment de déterminer si le vaccin expérimental provoque chez ces personnes une réponse immunitaire permettant d'en prédire l'efficacité. Les premiers essais sur les animaux ont permis de bien protéger des primates contre l'Ebola, a indiqué le Dr Anthony Fauci.
It is important to know.
Il est important de savoir que le gène d'Ebola contenu dans ce vaccin expérimental ne provoquera pas l'infection chez l'individu sur qui il est injecté. Les volontaires seront divisés en deux groupes pour des essais à faible et forte dose. D'autres essais cliniques suivront en octobre ici aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, au Mali et en Gambie.
Cette édition spéciale vous a été présentée par Idriss Fall. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique.